Radio Grand Ciel présente Histoire d'en savoir plus, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale d'Antoine Camprodon. Au micro, Christiane Blain. C'est dans le Perche que j'ai rencontré Christine Le Goff. Nous avons beaucoup parlé des États-Unis, du Perche et de cinéma. J'ai voulu en savoir plus et faire connaître à nos auditeurs une personnalité qui vit maintenant dans le Perche. Christine et Goff, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors comment êtes-vous arrivée dans le Perche ?
Oh, c'est une longue histoire. En fait, elle a commencé il y a presque 40 ans. J'étais toute jeune à l'époque et je suis venue passer un week-end chez une amie qui avait acheté une vieille maison. C'était en fait une auberge à moitié déglingué, à l'orée du bois, à la chapelle Montligeon. Et en fait, c'était une auberge de bûcherons. Et la maison était vraiment en très mauvais état. Mais par contre, la campagne alentour était sublimement belle. Et je me rappelle à l'époque m'être dit, c'est la plus belle campagne du monde. Je suis après partie aux États-Unis, j'ai fait ma vie.
À quel âge vous êtes partie aux États-Unis ?
J'avais 20 ans.
20 ans ?
Oui, voilà, je suis partie avec mon petit sac à dos sur les routes américaines. Et à l'époque, j'avais envie de voir du pays, de vivre une aventure. Et puis, sans le savoir, j'ai rencontré le cinéma.
Alors, comment s'est fait cette rencontre ?
Alors, c'est assez amusant. En fait, ça a commencé par la rencontre avec un poète à San Francisco. J'avais réussi à aller jusqu'à San Francisco en prenant le Greyhound.
Vous parliez bien anglais à ce moment-là ?
Je parlais pas mal anglais, mais très franchement, pas si bien que ça. Mais en fait, j'arrivais à me faire comprendre. Et je tombe sur ce poète qui est un petit peu un poète de la génération après la Beat Generation. Et donc, on tombe amoureux, tout simplement. Oui. Et en fait, ce poète était aussi un acteur dans un film indépendant. Et il me dit, est-ce que tu veux venir avec moi ? Je vais partir pendant 3 mois sur la route au Nouveau-Mexique, en Arizona, dans le sud de la Californie. Moi, j'avais jamais travaillé sur un film, donc moi, je lui dis, je peux balayer, enfin, je peux faire ce qu'il faut faire. Et ça a été le coup de foudre. En fait, ce road movie a été ma découverte du cinéma et je suis tombée dedans et je n'en suis plus jamais sortie, en fait. J'ai compris que j'étais faite pour ça et c'est une aventure inoubliable et qui a vraiment marqué ma vie. Donc je n'ai pas du tout appris le cinéma à l'école, je n'ai pas fait d'université, je l'ai vraiment appris sur le tas aux États-Unis. Et en fait, je suis restée aux États-Unis pendant 25 ans.
Alors, à New York
D'abord à San Francisco, et puis très vite, parce que la ville, la mecque du cinéma n'est pas Hollywood pour les films indépendants et pour les documentaires, c'est New York. Et donc, j'ai repris mon petit bus, mon petit Greyhound, et je suis partie à New York. Et là, j'ai commencé ma carrière. Donc,
et là, vous saviez où vous pouviez aller ?
Non, je l'ai... En fait, ce qui est intéressant avec l'Amérique, c'est que... C'est un pays d'opportunités. Ouais. En fait, si on est ouvert, petit à petit, et surtout si on travaille dur, si on est
motivé,
si on se fait remarquer, et j'étais passionnée. Donc, je ne comptais pas mes heures, je découvrais un monde. Et donc, petit à petit, les uns et les autres ont commencé à me recommander, à dire, tu pourrais travailler avec un tel. Et donc, sans même avoir un plan de carrière, ma carrière s'est faite et c'est comme ça que ça a commencé et c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari qui lui était réalisateur de films expérimentaux et j'ai donc rencontré Marc sur un film et c'était il y a 36 ans.
Alors un problème de terminologie, producteur et réalisateur.
Absolument.
Alors, expliquez-nous parce que quand on ne connaît pas trop, on ne voit pas bien.
Alors, un producteur...
C'est ce que vous êtes.
C'est ce que je suis. Marc est un réalisateur. Et en fait, c'est un binôme essentiel au cinéma comme à la télévision. Le producteur, c'est celui qui va aller chercher les financements pour faire un film, qui va aller convaincre un diffuseur, une chaîne ou d'autres partenaires financiers pour qu'ils viennent sur le film. C'est aussi celui qui est le... il accompagne le réalisateur, il trouve les équipes. En fait, il fait en sorte qu'un film puisse se faire. C'est un peu là, le papa, la maman, qui tient tout le film et qui va l'accompagner même après que le film soit terminé. C'est-à-dire qu'il
va vendre,
pour les festivals, pour la promotion. C'est en fait un travail de très longue haleine. Souvent, moi, quand je commence un film ou que j'ai une idée, parce que parfois c'est moi qui ai l'idée, parfois c'est un auteur ou un réalisateur qui vient me voir, ça peut durer 4, 5, 6, 7 ans. C'est-à-dire c'est une très, très longue aventure. Le réalisateur, tu veux expliquer, Marc, ce que c'est qu'un réalisateur ?
Oui, c'est interprète les choses, fait la mise en scène.
Oui.
C'est jour par jour gérer les acteurs, c'est les acteurs ou les autres techniciens pour découvrir les choses. Mm-hmm. On fait une sorte de planning de tête de qu'est-ce que c'est le film vraiment et discuter avec la productrice pour trouver le moyen pour faire les différentes choses et prioriser les différentes choses parce que c'est jamais l'argent pour faire tous. Mm-hmm. Et ça aussi... C'est dans un sens, c'est le création de le film esthétiquement, c'est vraiment le boulot de le réalisateur.
Oui. Alors l'idée d'un film, elle vient d'où ?
Elle peut venir de n'importe où. Oui, elle peut venir de Marc, elle peut venir de moi, elle peut venir d'un auteur, elle peut venir d'une lecture du journal. Je lis passionnément le journal tous les jours. Oui. Ça peut venir de la lecture d'un livre. Ça peut venir d'une conversation. J'ai un projet que je suis en train de monter et ça venait d'avoir rencontré quelqu'un, ce jeune historien, et d'avoir pris un café et il a commencé à me raconter une histoire et je l'ai regardé et je me suis dit mais mon Dieu, mais c'est un film.
Ah,
et
oui.
Donc un an plus tard, je vais faire ce film avec Arte.
Formidable.
Voilà, mais c'est en fait un producteur, mais comme un réalisateur aussi, c'est quelqu'un qui doit être extrêmement curieux du monde. Et je suis connectée au monde, qu'il soit en France, qu'il soit à l'étranger. Et on est des raconteurs d'histoires. Voilà. Donc certains le font en fiction, moi je le fais avec le réel.
Ouais.
Et parce que le réel me passionne et parce que les gens me passionnent. Les gens, les monuments, l'histoire, la science, la nature. Enfin, en fait, j'ai un métier, le plus beau métier du monde. C'est-à-dire
dans un sens, on devient un expert dans un sujet pour 12 ans, 3 ans. Et passe de l'expertise d'un autre sujet. Après ça, on peut suivre la curiosité.
J'aimerais bien qu'on parle d'un film que vous avez l'un produit, l'autre réalisé.
Bien sûr.
Alors, celui qui vous plaît le mieux, peut-être L'effondrement des abeilles.
Absolument, parce que c'est un film qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur.
Oui.
Et alors là, ça a commencé avec un petit mail d'une amie américaine qui m'envoie cet article du New York Times en me disant, parce que c'est là où a commencé L'effondrement des abeilles, bien avant qu'il arrive en France, et qui me dit, lis cet article, c'est juste dingue cette histoire, les abeilles sont en train de mourir par, non pas millions, mais milliards, aux États-Unis. Et donc je lis la chose, j'écris un petit texte, je le donne à Arte, parce que je travaille beaucoup avec la chaîne, avec le diffuseur Arte. Et
Vous dites le diffuseur Arte,
ça veut dire la chaîne de télévision.
La chaîne de télévision. Et donc là, il y a quelqu'un qui...
Voilà, elle s'appelle Hélène Coldefy et elle est la responsable de l'unité connaissance et découverte.
Oui, donc, comme c'est mieux comme ça, on a des visages.
Tout à fait. Et Hélène Coldefy, donc, dans son unité, elle gère à la fois l'histoire ancienne, le patrimoine... et la science, et tout ce qui concerne aussi la nature et l'écologie. Et donc, elle lit ce petit texte que je lui donne, ça l'intéresse, il faut un petit peu de temps pour que l'on le développe, Et comme c'était un film donc, qui se passait entre la France et les États-Unis, puisque l'histoire commence là-bas, j'ai donc demandé à Marc, qui est américain, de travailler dessus. Oui. Et là commence une grande aventure qui va nous emmener aux États-Unis, qui va nous emmener en Allemagne.
Alors, aux États-Unis, pourquoi ?
Ben parce que c'est là où tout commence. C'est les origines. Et en fait, il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable. La culture des amandiers. Peu de gens le sachent, mais la plupart des amandes que l'on mange dans le monde viennent de la Californie. Or, en Californie, c'est une culture ultra intensive des amandiers, où ils ont réussi à modifier la génétique des arbres pour qu'ils donnent des amandes en plein mois de littéralement janvier, à une époque. Et donc, pour polliniser ces cultures à un moment qui est l'hiver où il n'y a rien, il n'y a pas d'abeilles, on amène par camion de toute l'Amérique des milliards d'abeilles, c'est un business, des milliards d'abeilles pour polliniser ces amandiers. Et pendant trois semaines, mais des amandiers à perte de vue.
C'est les gens depuis Michigan, depuis South Carolina, dans le côté est, tous les amandiers.
Toutes les abeilles de l'Amérique du Nord.
C'est fou, ça.
Toutes les abeilles de l'Amérique du Nord sont emmenées par camion jusque en Californie pour polliniser les amandiers.
Et après trois semaines, il n'y a rien pour les abeilles à manger.
Et oui,
parce que c'est monoculture pour des kilomètres et les kilomètres. Et tous les abeilles prennent de force beaucoup, mais après ça, c'est rien. Donc, il faut trouver les autres endroits pour migrer, pour...
La plupart vont mourir.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale.
Standing is my name. What I am is not a game. Such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. No explanation you can give that you or I
avec
believe.
Christine Le Goff et son époux. Et nous évoquons, disons, le cinéma et plus particulièrement, d'ailleurs, le documentaire. Nous étions donc dans cette histoire d'abeilles et j'aimerais bien pour nos auditeurs que vous refassiez une petite présentation parce que c'est impressionnant, je dois dire.
Tout à fait. Je crois que les abeilles étant des insectes, on ne se pose pas la question de est-ce qu'elles sont là ou est-ce qu'elles ne sont pas là. Et en fait, il faut des événements absolument majeurs, catastrophiques, comme cette question du syndrome d'effondrement qui a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, mais qui n'était pas sorti du hasard. Et ce que je racontais, cette histoire de monoculture intensive des amandiers, est en partie la raison pour laquelle tout ceci s'est mis en place. C'est-à-dire que le fait d'élever des abeilles simplement pour qu'elles servent de pollinisateurs pour un temps donné, de les laisser mourir de faim une fois qu'elles avaient fait leur pollinisation, parce qu'évidemment, à cette époque-là, il n'y a plus d'autres cultures sur lesquelles elles peuvent donc manger. Enfin, c'est quelque chose d'intéressant parce que l'abeille qui, par nature, a été l'ami de l'homme, et c'est probablement le plus ancien ami de l'homme.
Oui, parce qu'elle l'a aidé, le miel, tout ça.
Depuis le tout début, au moment où l'homme n'est encore, ne fait que de la cueillette et n'est pas encore un agriculteur. Et au final, nous avons perverti un système. Et ces abeilles sont en train de s'effondrer. Alors, on pourrait se dire, bon, ce ne sont que des abeilles, sauf que les abeilles ne font pas que du miel, elles pollinisent. Et elles pollinisent toutes les cultures et notamment tous les légumes que nous mangeons. Et donc, nous avons fait ce film pour Arte à une époque où personne ne connaissait le problème. Et je dois avouer qu'à l'époque, ce film a eu une audience mais incroyable. En fait, historiquement, on est une des plus grosses audiences jamais faites par la chaîne sur un documentaire qui avait été montré en prime time, c'est-à-dire à 9h du soir, un film qui durait 90 minutes, donc oui. En plus qui était long, une véritable enquête à travers le monde pour comprendre. Et en fait, on en est très fiers parce que après, tout le monde a voulu voir ce film. Donc, on avait un petit projecteur et on a fait le tour de France et notamment tour du Perche.
Ah oui.
Puisqu'on a montré le film aussi bien au cinéma de Mortagne, à l'écomusée du Perche.
Enfin, c'était... Jean le retrouve.
Non, non.
Ah non.
Non, à l'écomusée. À l'écomusée.
Oui.
Donc, vraiment, ça a été une expérience formidable parce que quand on fait de la télévision, on n'a pas de public. Enfin, notre public, il est entre guillemets virtuel. On a oui. des fois des lettres, etc. Mais on ne voit pas.
Là, vous savez quand même combien vous avez de.
Oui, oui, mais le retour.
Voilà.
Il y a quelque chose de formidable d'être assis dans une salle, de montrer un film, de sentir la réaction oui. des oui. uns et des autres, et après de pouvoir parler. Et de pouvoir partager, d'avoir un retour, c'est une des choses qui est difficile en télévision, c'est que le retour il est très très lointain ouais, et ouais. virtuel. Donc quand on reçoit des mots d'encouragement, des lettres, on est absolument ravis. Voilà. Oui. Donc c'était une expérience absolument formidable et ça a été une des premières expériences que nous avons fait lorsque nous sommes venus nous loger dans le Perche.
Dans le Perche.
Ouais.
Alors, il y a une autre expérience, moi, qui m'a beaucoup bouleversée. C'est le film sur la migration des oiseaux. Parce que j'ai vu un film, effectivement, et on se dit, mais comment on peut arriver à apprendre à des oiseaux un chemin qu'ils ne connaissaient pas ? Mais vous, ce que vous avez fait, c'est encore plus intéressant. Expliquez-nous.
Alors, c'est un film qui est en train de se faire en ce moment. On est en cours.
Donc ça, c'est encore plus intéressant.
Ah ben, celui-là, vous le verrez dans un an.
On pourra le voir sur Arte dans combien de temps ?
À peu près dans une année.
Dans oui, une oui. année.
Parce qu'en fait, nous suivons le cycle des oiseaux migrateurs pendant une année entière, évidemment. Voilà. Quand est-ce que les oiseaux migrent ? Au printemps, à l'automne. Et donc, il y a comme une sorte de grand, je dirais, pouls de la planète, une sorte de grande respiration au printemps. Tous les oiseaux migrateurs partent de l'hémisphère sud, là où ils ont hiverné, pour aller vers l'hémisphère nord, pour aller en général en Alaska, en Sibérie, c'est-à-dire les contrées les plus nordiques, pour pouvoir se reproduire. Et quelques mois plus tard, ils referont le chemin avec la nouvelle génération, les juvéniles, de retour vers les contrées chaudes de l'hiver. Et ce grand voyage aller-retour, qui peut durer mais des milliers et des milliers de kilomètres, est fait par des oiseaux qui sont parfois pas plus gros que voilà, une petite boule qui ne pèse pas plus qu'une plume. Et c'est quelque chose d'assez miraculeux. Et le film raconte qu'en fait, on est vraiment juste au moment où on est en train d'arriver à comprendre comment tous ces oiseaux se dirigent, comment cette connaissance du lieu d'arrivée et du lieu de départ se transmet de génération en génération. C'est quelque chose de tout à fait mystérieux et extraordinaire. Et alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, grâce à l'ISS, on est enfin maintenant capable de traquer ces animaux sur tout leur trajet par des scientifiques absolument passionnés qui, en plus de ça, sont tous connectés les uns aux autres. C'est vraiment une science collaborative. Mmh. Et ils travaillent en plus avec des populations locales qui, elles-mêmes, se sont émues d'un autre effondrement, puisque en 15 ans, plus de 70% des oiseaux migrateurs ont disparu. C'est absolument énorme, c'est catastrophique. On parle notamment, par exemple, du petit bec à spatule, cet adorable petit oiseau avec un bec à spatule. Il ne reste plus que 200 couples dans
c'est
le monde.
Fou, quand même.
C'est-à-dire que cet oiseau est maintenant quasiment extinct. Mmh. Voilà, c'est des choses comme ça qui m'émeuvent particulièrement parce que je crois qu'il y a une beauté, une fragilité, mais une résilience absolument extraordinaire. Les oiseaux sont une sorte de, et de poèmes.
Et cet oiseau merveilleux qui est tout petit, mais qui en fait, peut faire des milliers de kilomètres, alors qu'il va se nourrir, si je puis dire, de tout son corps.
Absolument.
Expliquez-nous ça, c'est quelque chose d'intéressant et d'impressionnant même.
Absolument. Comme on sait, les oiseaux migrateurs s'engraissent pour pouvoir faire leur long voyage. Sauf que même en s'engraissant, hein, on connaît le principe des oies, des canards qui s'engraissent, ça ne suffit pas. Et en plus, ça suffit de moins en moins parce que là où ils s'engraissent, la nourriture s'est appauvrie. Ah oui. Et donc, pour pouvoir tenir la distance, ils vont commencer à manger leurs propres organes, c'est-à-dire leur foie, leur cœur, leur gésier vont commencer à perdre du poids pour alimenter le corps de ces oiseaux. C'est quelque chose d'absolument incroyable.
Et quand
incroyable.
Ils arrivent après, ils peuvent refaire tout ça.
Voilà,
et
ils recommencent
ça qui est magique quand
à manger et à refaire et à reprendre du poids et se préparer pendant quelques mois,
oui,
se réengraisser
quand,
pour aller dans l'autre
sens. Quand on dit se revigorer, c'est redonner toute la vigueur à tout ce qu'on a, à tout ce qu'ils ont, quoi, cœur, estomac, tout ça. C'est
exactement. Les muscles, mais on le sait, par exemple, quand on regarde un marathonien avec son corps très sec, etc., un marathonien, en fait, utilise toute l'énergie de ses muscles. Oui. Il perd je ne sais pas combien de kilos entre le début et la fin d'un marathon. C'est exactement le même principe.
Oui, ça, c'est très intéressant, votre rapprochement entre l'athlète et l'oiseau, parce qu'on a l'impression qu'ils vivent la même chose.
C'est un athlète.
C'est
absolument.
Un athlète, oui.
Tout à fait.
Alors, ce qui est aussi très intéressant, ce sont la collection de musique de film aussi. Parce que, effectivement, nous, au cinéma, on ne se rend quelquefois pas compte parce que la musique fait tellement partie du film. Alors, comment faites-vous ? Parce que ça aussi, c'est une magie.
Alors ça c'est plus un rapport entre le réalisateur. D'abord, il faut trouver un compositeur. Il faut faire un choix. Est-ce qu'on va prendre de la musique préenregistrée parce que elle correspond dans la couleur, dans le rythme, plus ou moins à son film, mais une musique préenregistrée, c'est un morceau ici, un morceau là. Et en fait, dans un documentaire, on aime beaucoup avoir une sorte de surface, c'est-à-dire une sorte de travail de fond où on commence à créer des thèmes, des personnages, on leur donne vie. Et donc là commence un travail entre le réalisateur et le compositeur qui doit interpréter. Voilà, oui. La vision, et c'était Hitchcock qui disait au compositeur, le grand compositeur Bernard Herrmann, j'ai fait les deux premiers actes, je te laisse le troisième acte, en gros, moi j'ai fait la moitié du travail et maintenant je te laisse finir. Et en fait, on le sait, quand on écoute Sueur froide, Psychose, etc., cette musique, elle est aussi forte et elle nous a autant impressionnés que les images elles-mêmes. C'est très clair. Donc la musique a une force absolument incroyable. Et donc j'ai été une des productrices d'une grande série qui s'appelait Musique de film, qui a regardé ces grands compositeurs légendaires comme Bernard Herrmann, mais aussi Joseph Kosma, qui a beaucoup travaillé avec Renoir et Carnet, avec Georges Delerue, qui a beaucoup travaillé avec Truffaut, mais qui ont tous eu des carrières internationales, avec les grands compositeurs de Hollywood des années 30. Et là, ça, c'est du bonheur, c'est du bonheur total, ça, de se plonger comme ça dans l'œuvre d'un compositeur, mais de comprendre cette relation entre le compositeur et le réalisateur. Et en documentaire, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire on cherche des compositeurs.
Alors vous-même,
on travaille.
Par exemple, pour ce film sur les oiseaux,
on est en discussion. Par contre, je peux vous dire que sur le film de Notre-Dame, on a déjà des petites idées de qui on aimerait, avec qui on aimerait travailler. Mais justement, par exemple, je suis en train d'écouter des musiques aujourd'hui et j'ai remarqué que certains jeunes compositeurs utilisent, par exemple, les oiseaux, je les vois avec du piano. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que le piano est l'instrument parfait pour illustrer la migration des oiseaux. Il y a quelque chose de profondément émouvant. Je joue du piano moi-même, ouais. où j'en ai joué. Et c'est, voilà. Donc, par exemple, j'ai cette idée. Voilà, je l'entends et il va falloir que je trouve les compositeurs ou compositrices qui... voilà.
Alors, quand vous dites « il va falloir que je trouve », j'imagine que vous avez déjà une idée quand même.
Non, pas toujours. Non, non. Des fois, c'est vraiment, c'est une quête. Et elle commence dès que l'on commence le film, c'est-à-dire qu'on cherche le compositeur pendant plusieurs mois avant de
vous
trouver
la
bonne personne.
Vous avez déjà commencé,
donc. Bien sûr, oui, oui. On a déjà commencé.
Et vous avez déjà dans votre une idée.
On a une idée. Maintenant. Voilà, après, c'est de tester si ce compositeur ou compositrice est inspiré par le film.
Oui.
C'est une rencontre. Oui, donc, il faut que ça marche dans les deux sens. Oui.
C'est-à-dire que vous racontez, vous demandez ce que vous voulez éprouver.
Voilà. Et puis, c'est des fois des relations, c'est une rencontre avec un réalisateur et ça match. Mm-hmm. Et puis, des fois, pas. C'est aussi de regarder des images. Parce que là, on commence, nous, à avoir des images. Donc, on montre des images et on envoie notre texte. Et
tout va voilà, bien ensemble. Oui.
C'est une vraie... un film, c'est fait de... Un documentaire, en tout cas, c'est fait de peu de monde. C'est un réalisateur, c'est quelqu'un à la caméra, un chef opérateur, quelqu'un au son, un ingénieur du son. C'est un monteur, celui qui va monter
Vous
le film.
Êtes 10 ?
Même pas. Enfin, avec les gens de la production, oui, mais c'est une toute petite équipe. Et donc, chaque personne de cette équipe est vraiment essentielle. Et donc, c'est la constitution de cette équipe, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Il faut trouver vraiment les bonnes personnes qui vont s'investir sans compter leur temps, mais avec la même passion sur un même sujet.
Alors, nous avons encore un peu de temps et j'aimerais que vous évoquiez Notre-Dame.
Alors, comme vous le savez, il y a eu beaucoup de films faits sur Notre-Dame de Paris. Il s'avère qu'il y a une douzaine d'années, j'avais produit et réalisé d'ailleurs un film qui s'appelait Les cathédrales dévoilées, qui racontait la naissance de l'architecture gothique, qui était un film qui avait été diffusé sur Arte avec un certain succès. Et le dernier monument de ce film était Notre-Dame de Paris. Donc, il y a plus de 10 ans, j'avais tourné à Notre-Dame un hiver. Et ça m'avait laissé un souvenir mémorable, parce que c'était une cathédrale qui n'était pas évidente pour moi. D'abord, elle est à Paris, on la voit sans la voir. Il y a tellement de touristes. Elle est plus sombre que Amiens, moins élancée que Beauvais, pas aussi émouvante que Noyon. Enfin voilà, mais en fait, une fois qu'on est dans Notre-Dame, que l'on commence à s'élever et qu'on commence à vraiment l'étudier et la filmer, on est pris d'une émotion
même quand on y est, enfin ça.
Tout à fait, mais vraiment c'était très fort. Donc j'avais le rêve de toujours tourner à Notre-Dame, et puis les années passent et puis l'incendie a lieu. Et un des historiens, il s'appelle Arnaud Timbert, qui était dans son premier film, qui est un extraordinaire médiéviste, m'appelle ce matin-là, il est 6h du matin, et il me dit « Ne crois-tu pas que ce serait temps de refaire un film ?» Et donc voilà, l'histoire commence comme ça. Mais moi, je n'avais pas très envie de faire un film sur la sauvegarde. Il m'a fallu du temps pour me dire de quoi j'ai envie de parler. Et en fait, c'est devenu assez évident, c'est-à-dire que j'avais envie de parler du chantier scientifique et archéologique, c'est-à-dire de ces 200 scientifiques qui, un an après l'incendie, c'est-à-dire au moment où la cathédrale était à peu près sauvée, sont rentrés sur Notre-Dame et ont commencé ce grand chantier archéologique. Et c'est intéressant parce qu'en fait, l'incendie est devenu une opportunité pour eux, puisque jusqu'à présent, c'était très, très difficile de faire la moindre recherche à Notre-Dame. Elle est pleine, elle était remplie de touristes à longueur de journée. C'est un endroit difficile d'accès. Et là, tout d'un coup, la cathédrale s'est vidée de tous ces pèlerins, de tous ces touristes, et est devenue un merveilleux chantier de recherche.
Eh bien, un grand merci à vous. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci infiniment.
Merci beaucoup, Christiane. C'était un grand plaisir.
Only you have such a lure. Only you have such a lure.